Bien. Alors, nous allons écouter Nancy Houston qui se propose de nous lire des extraits de Bad Girl et d'autres, peut-être d'autres livres. On va voir. Alors, je pense que beaucoup de personnes connaissent Nancy Houston. Je vous rappelle juste qu'elle est d'origine canadienne, anglophone. Vous vivez en France depuis l'âge de 20 ans. Vous êtes romancière et essayiste. Aujourd'hui, Bad Girl est votre dernier roman. Mais je me suis laissé dire qu'en avril, vous alliez sortir votre 15e roman, peut-être un peu plus, que vous avez intitulé « Le club des miracles relatifs ». Vous avez écrit aussi autant d'essais, des livres pour jeunes publics, des pièces de théâtre et signé des scénarios de 2 films, me semble-t-il. Vous avez aussi participé à des ouvrages collectifs. Vous allez bientôt publier Carnet de l'incarnation, une compilation de textes choisis. Vous vous dites graphomane, impénitente, une graphomane impénitente. Écrire est votre façon de supporter le monde. À notre invitation, spontanément, vous nous avez proposé de lire des passages de Bad Girl en vous centrant sur le traumatisme qui fige le temps. Ensuite, nous pourrons entamer une discussion. Nous aurons du temps pour justement continuer à travailler sur les processus artistiques ou thérapeutiques susceptibles de défiger le temps arrêté. Voilà, c'est à vous, Nancy.
Merci infiniment. Donc, il paraît que vous m'entendez quand je parle normalement. C'est génial. Et je remercie de tout cœur Marie-Vonne Baraban. Je suis heureuse d'être là. Je suis passionnée par ce qu'on a entendu ce matin. Je vais en fait grappiller un peu à droite à gauche avant d'entrer dans la lecture de Bad Girl. D'abord, vous dire l'origine du roman Ligne de faille, qui est probablement celui qui est le plus utilisé dans les milieux de psy, à cause de la psychologie transgénérationnelle, etc. Juste vous dire une scène réelle à laquelle, que l'on m'a racontée. C'est drôle, j'ai l'impression d'y avoir assisté. Après l'enterrement de mon ami Göran Tunström en Suède, c'était un grand romancier suédois, sa belle-sœur m'a raconté que l'avant-veille, elle avait été dans une mansarde, comme ça, une pièce où elle rangeait des malles, etc. Elle est tombée sur une poupée de son enfance. Elle rangeait avec sa sœur, qui était donc la femme de Göran. Et c'était des femmes de 65-67 ans. Et tout d'un coup, l'autre sœur, la femme de Göran, a dit « Mais ça, elle est à moi, celle-là. » Et l'autre a dit « Mais tu plaisantes. » Et elles se sont mises à pleurer et à s'arracher cette poupée. Et c'est une scène qui peut paraître drôle de l'extérieur, mais je pense qu'ici, personne ne va éclater de rire en entendant ça. Cette scène a été donc plantée dans mon esprit. J'ai pris des notes ce soir-là et c'est devenu véritablement le point de départ du roman « Ligne de faille ». Quand on lit le roman, c'est la fin du premier chapitre, mais... c'est en fait presque la dernière chose que j'ai écrite. Je l'ai écrit dans le désordre, mais c'est pour vous dire l'importance à travers les générations de cette violence-là, de la mémoire, d'un objet de l'enfance, de comment ça s'est passé. Il se trouve que toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est contenue dans cette poupée. Et le fait d'avoir écrit « Ligne de faille », un livre sur Donc, cette deuxième moitié du siècle, avec ses guerres, avec ses déplacements, quatre enfants de 6 ans qui racontent la vie de leur point de vue, et où, dans la vie de chacun, il y a un transfert, une transposition, un changement de pays, de langue, de religion, d'identité. En fait, l'autre point de départ du livre, c'est les histoires d'enfants volés par les nazis. 250 enfants qui ont été kidnappés, c'est un chapitre relativement peu connu des horreurs du régime nazi. Donc, kidnappés en Pologne et dans les pays baltes pour être donnés à des familles allemandes, etc. Parfois, c'était des enfants, des bébés, donc ils apprenaient, ils pensaient que c'était leur vraie famille. Et après la guerre, pour certains de ces enfants, quelques milliers peut-être, ils ont pu être restitués à leur famille d'origine. On a pu faire les recoupements grâce aux lettres, grâce aux documents. Et vous imaginez un peu le trauma de retrouver une famille qu'on ne connaît pas, une famille qui vous dit que vous êtes leur enfant, mais pour vous, vous avez été privé de votre famille. Parfois, un troisième arrachement étant de les envoyer au Canada ou aux États-Unis si les parents se trouvaient dans une partie du monde maintenant dominée par les Russes, par les communistes. Donc, ces enfants pouvaient changer d'identité plusieurs fois. Et on pouvait leur dire, non, en fait, vous n'êtes pas catholique, vous êtes protestant. Non, en fait, vous êtes juif. Non, on va se convertir. Maintenant, il faut apprendre l'hébreu. Maintenant, il faut apprendre... Mon enfance était un petit peu comme ça. J'ai été je raconte un petit peu ici, mais un petit peu par la force des choses. Baptisée 2 fois, par exemple. C'est rare. C'est rare. Et c'est une chance parce que ça vous induit tout de suite, ça vous montre la relativité ou le caractère construit de l'identité. Ça ne veut pas dire que l'identité n'existe pas, ça veut dire que c'est une construction. Et les constructions sont susceptibles de transformation, de changement. Tous ceux qui ont vécu l'exil le savent. Tous ceux qui parlent plus d'une langue le savent. Qui ne sont pas la même personne totalement dans une langue que dans l'autre, qu'ils n'ont même pas exactement les mêmes opinions dans une langue que dans l'autre. Ni le même caractère, la même personnalité. Moi, c'est clair que je m'aime plus en français. Enfin, pendant un certain temps, ça a été le cas. Mais je ne vais pas parler de ça. Le fait d'avoir écrit Ligne de faille m'a amené à faire une sorte de... piece of thinking, comme ça, une réflexion, mener une réflexion qui est totalement pertinente. C'est pas pour faire ma publicité, mais c'est vraiment exactement au cœur de vos réflexions ici. C'est l'espèce fabulatrice. Ou d'ailleurs, j'ai écrit aussi cette très belle phrase, il n'y a que Dieu qui pourrait raconter toute l'histoire, sauf que Dieu ne raconte pas des histoires. Donc, si ça vous chante, vous commanderez, vous trouverez, emprunterez ce livre en bibliothèque. Je vais juste vous lire une page pour vous donner un échantillon, un sens du ton. C'est des tout petits aphorismes comme ça. Le réel est sans nom. Le nom juste ou naturel d'un objet, acte ou sentiment n'existe pas. Aussi loin que l'on remonte dans les étymologies, de mot en mot, on ne trouve que d'autres mots, c'est-à-dire d'autres signes arbitraires, découpant le monde, construisant leurs objets au lieu de les trouver. C'est nous seuls qui les avons engendrés. Ils sont réels, puisqu'ils font partie de notre réalité, mais ils ne sont pas vrais. Sans homme, pas de nom. Dieu qui nomme les premiers hommes, etc., c'est une fiction. Nous ne sommes pas sa création, il est la nôtre. Dieu ne peut pas être ailleurs que dans nos histoires. Pour être Dieu, il faut parler. Et pour parler, il faut une langue. Et pour avoir une langue, il faut déjà faire partie de l'histoire humaine. Dieu et les dieux font de fait partie de cette histoire. même s'il refuse systématiquement de l'admettre.
C'est
ma petite contribution politique.
C'est l'espèce fabulatrice, effectivement. Moi non plus, je ne connaissais pas. Bon, ben voilà, on est là pour ça, pour découvrir.
Ouais. Et avant d'en venir à Bad Girl, je voulais aussi, parce que donc il y a beaucoup d'exemplaires de Bad Girl ici, c'est disponible, c'est facile à trouver. Je voulais aussi vous parler d'un livre qui m'est très cher et qui vous est, qui est très pertinent pour vous aussi, d'une amie philosophe, Annie Leclerc, décédée en 2006. Et je vais lire juste deux, trois pages de ma préface de ce livre. Le livre s'appelle « Paedophilia ou l'amour des enfants ». Et donc, si vous pouvez, vous verrez si c'est pertinent pour vous, mais je pense que...
Et en plus, vous nous nourrissez.
Chaque écrivain a sans doute son livre cauchemar, le livre qu'il s'agirait d'écrire mais qui ne veut pas s'écrire. Celui qui nous hante et nous tourmente, nous travaille les tripes, nous triture les méninges, nous déchire l'âme, nous réveille la nuit, nous fait blanchir les cheveux, ça c'est complètement teint. Le livre qui pendant des décennies, voire toute la vie, nous préoccupe, litote, nous obsède, nous rend malade. Le livre qui est la raison pour laquelle nous écrivons des livres. Celui qu'il ne faut pas écrire peut-être, justement parce que si on l'écrivait, on n'aurait plus besoin d'écrire. Après, on aurait dit ce qu'il y avait à dire, mais justement, on n'y arrive pas. De toute façon, on n'y arrive pas. On essaye, on remet l'ouvrage 100 000 fois sur le métier, et non, ce n'est pas ça, pas ça, toujours pas ça. Voici le livre « Cauchemar » d'Annie Leclerc. Et donc, c'est autour d'une... je savais qu'elle avait ce projet d'écrire un livre sur la pédophilie, sur le fait que dans les années 70, beaucoup d'intellectuels français faisaient l'éloge de la pédophilie, en disant qu'on libérait les enfants ainsi de l'oppression familiale, enfin de la famille. C'est une redondance de dire oppression familiale, c'est juste la même chose, quoi. Et je dis, je savais qu'Annie elle-même, petite, avait été victime d'un geste pédophile. Elle en avait parlé dans deux ou trois livres. J'ai dû me dire que bon, ça suffisait comme ça, qu'il s'agissait d'un très vieux traumatisme et qu'il était temps qu'elle le surmonte, que cela ne servait à rien de revenir inlassablement là-dessus, à la manière de ces traumatisés de la Première Guerre qui, des années plus tard, revivaient encore, chaque nuit ou presque, les explosions, hurlements et blessures des batailles qu'ils avaient connues. En d'autres termes, tout en voyant à peu près le champ philosophique qu'Annie Leclerc espérait baliser, j'étais pessimiste quant à ses chances d'y parvenir. Trop de temps s'était écoulé, j'étais convaincue que le champ resterait éternellement en friche, pas vraiment semé, que la récolte des significations n'aurait jamais lieu. Or, je me trompais. Et en fait, après sa mort, je suis allée donc chez elle, chez son veuf, Paul Haïm, et j'ai demandé si je pouvais faire l'inventaire de ses papiers ou l'aider avec ça, et je suis tombée sur une chemise où vraiment le livre était là, il était désordonné, surchargé de corrections, etc., mais il était écrit. Je l'ai rapporté chez moi, cette chemise, et me suis mise main tremblante, cœur palpitant à le lire, et j'ai compris. Par-delà la mort, j'ai enfin compris les cauchemars d'Annie Leclerc. D'abord, celui qu'elle avait vécu petite, puis celui qu'elle vivait, adulte, à tenter de raconter et surtout de comprendre le premier. De trouver la bonne distance, voilà le problème indéfiniment mis en abîme dans le manuscrit que je tenais entre les mains. Une distance précieuse avait été abolie. Un enfant qui commençait à parler, à raffoler des joyeuses possibilités du langage, avait été, par un geste d'adulte, violemment renfoncé dans l'infance, le non-langage.
L'infance.
Comment dire cela qui l'avait privé du dire? Je crois maintenant pouvoir l'affirmer, Annie Leclerc est devenue philosophe pour répondre à cette question-là. Elle s'est dit, même si la peur et l'horreur nous obscurcissent le regard, il s'agit de se clarifier les idées et de reprendre la parole raptée. Ce n'est pas possible qu'une chose aussi importante, une chose qui a radicalement bouleversé mon existence et celle de tant d'autres enfants, reste en dehors du royaume du pensable. Je dois parvenir à la penser, à la dire, par-delà le mutisme qui m'étrangle chaque fois que mes pensées s'aventurent dans ces parages. Alors qu'il est beaucoup question de dans ce livre de loup, et vous verrez que le petit chaperon rouge est vraiment, se sent beaucoup plus proche du loup que de ses parents, que de sa mère et sa grand-mère, un certain nombre de fois, surtout de la grand-mère. Ce renard, alors qu'il est question de loup, j'ai eu pour ma part, en le lisant, la réminiscence d'une histoire de renard. Ce renard se trouve sur une table et une brave poule court autour à toute vitesse. Pour l'étourdir, elle a peur, il peut la dévorer, elle court, il la suit du regard et finit par tomber de la table et dans les pommes. C'est un peu ainsi que procède Annie ici. Elle court autour de la notion de paedophilia, mais c'est aussi bien notre amour. Oh, il est cute! Oh, il est poli! Tous les amours d'enfants, pas seulement la... C'est pour ça qu'elle le dit en latin. Elle court autour de la notion de paedophilia encore. L'approche, n'ose pas, dit qu'elle va oser, vient un peu plus près, dit un peu plus, s'approche par cercle concentrique du renard, de l'homme qui lui a gâché la vie, et qui partant l'a peut-être faite écrivaine, philosophe, grande penseuse, grande femme. Oui, il faut s'habituer à dire grande femme. Annie Leclerc fait indiscutablement partie de cette catégorie et personne ne devient grand sans calvaire, sans cauchemar. Voilà. Donc, je dirais un peu que c'est important aussi de remercier les gens qui nous ont fait mal. Et j'ai remercié ma maman récemment. Alors... Ça, c'est une très jolie histoire. Il y a quelques années, parce que notre histoire a toutes sortes de... Je vais vous raconter un chapitre que vous ne devinez absolument pas dans nos relations. Mais toutes sortes de hauts et de bas, des moments de rupture, de silence, de retrouvailles, de sérénité, de ressentiment, etc. Et il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, elle a vu dans le journal que je venais à Montréal, elle a dit, est-ce qu'on pourrait prendre un café? J'ai dit oui, bien sûr. Donc on se retrouve pour un café dans un endroit qui permet encore de fumer à l'extérieur. Parce que quand on se voyait, on fumait. Maintenant, je crois qu'on a vraiment arrêté. Mais on ne pouvait pas se voir sans fumer. Et donc, après les small talk comme ça du début, on échange des nouvelles de ses enfants, des miens et tout, nos projets. Et puis, elle voulait me voir pour quelque chose. Et je savais par mes frères et sœurs qu'elle avait repris un peu de religion, comme ça, l'approche de 80 ans. Là, elle avait 80 ans et j'avais un peu l'impression qu'elle voulait mettre tous ses comptes en règle pour le grand départ éventuel. Quoi. Et donc, que les choses soient dites. Et donc, en allumant sa cigarette, elle me dit, je voulais te demander pardon. Je sais que je t'ai fait beaucoup souffrir. Elle pleurait. Et j'ai pris sa main et j'ai dit, mais maman, je te dois tout. Ça va, vraiment ça va. Regarde, tous les trois d'ailleurs, ça va, on s'en est bien sortis, tous les trois. T'as assuré, c'est ok, c'est bon. Mais merci. Et vous me croirez ou non, mais juste à ce moment-là, il y a une jeune Québécoise qui est venue se mettre à genoux devant moi. J'ai dit, Madame Houston. J'adore vos livres,
Nouvelle génération, une nouvelle, hein. Les nouvelles générations, faut toujours compter dessus.
C'était vraiment pas le moment. J'ai dit, merci beaucoup. Je crois qu'elle n'a pas demandé un autographe. Et ma mère a dit, c'est quelqu'un que tu ne connais pas? J'ai dit non, je lui ai glissé un billet de 5 dollars.
Il y a une expression qui dit, il n'y a pas de fumée sans feu.
C'est ça. Donc c'était un moment important. Un bon moment. On s'est vu depuis, on s'écrit, c'est assez incroyable. On s'écrit. Alors, ce qui s'est passé, donc vous pourriez me demander, voilà, est-ce que ça c'était votre livre cauchemar? Pourquoi est-ce que vous écrivez votre autobiographie maintenant, à 60 ans? Enfin, je dis, j'avais 60 ans, je ne les ai plus. Quand je l'ai écrit, j'avais 60 ans. Et la première réponse, c'est que ce n'est pas mon autobiographie. On oublie de mentionner le sous-titre. Non, ce n'est pas une fiction non plus. Pas plus que tout ce qu'on a dit, que nos vies sont des fictions. On construit des récits pour se raconter. Mais le sous-titre, c'est « Classe de littérature ». Donc, en fait, c'est prélevé dans mes millions de souvenirs les aspects, les facettes de mon enfance, de ma généalogie, de mon éducation, des vicissitudes de mon histoire, qui m'ont fait écrivaine, qui m'ont obligée quelque part, ou incitée, ou encouragée, ou voilà, à écrire. Et donc, c'est vraiment uniquement ça. J'ai plein d'autres souvenirs, je peux faire des volumes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Mais pourquoi est-ce que j'ai écrit ça à ce moment-là? Alors là, il y a une réponse. C'est que j'ai vécu à cet âge très tardif un bouleversement sur le plan personnel très important. J'ai quitté mon mari, j'ai changé de quartier, j'ai changé de grand amour. Et en changeant de maison, c'est un déménagement dans tous les sens du terme, bien sûr. Et forcément, c'est un peu comme un near-death experience, là, où on voit sa vie passer devant ses yeux en très peu de temps. J'ai vu tous les papiers, toutes les traces de tous ses livres, les lettres, les cahiers de correspondance, les carnets, enfin. Je suis quelqu'un qui garde, comme on a tellement déménagé dans mon enfance, je suis devenue quelqu'un qui thésaurise plutôt. Maintenant, j'ai donné tout ça aux archives du Canada, mais à l'époque, c'était des tonnes. Donc, je me suis dit, là, c'est le moment, peut-être, de réfléchir à cette histoire-là en ce qu'elle m'a fait écrivaine. Donc, la scène avec ma mère avait déjà eu lieu. Et je me suis dit, c'est bon, tout est en mouvement, tout est chaotique autour de moi, mais je peux écrire par fragments, comme vous avez dit, essayer de comprendre cette histoire-là. Je le raconte. Alors, pourquoi l'écrivez-vous, Madame Houston, à la deuxième personne en changeant tous les noms? Mais justement, pour vous indiquer que nos histoires sont des fictions, qu'on se les raconte. Moi, je suis à l'aise dans la deuxième personne, pour des raisons que j'explique dans le livre, à savoir que ma mère m'a toujours écrit des lettres et que j'ai toujours raconté ma vie à ma mère par lettres. Donc, c'est ça qui m'a fait femme de lettres. Et j'adore la deuxième personne. Je suis vraiment bien dedans. Donc, je raconte à la petite Dorit, qui est une version de moi-même, fœtus dans le ventre de sa mère, d'où elle vient et où elle va aller. Je me suis beaucoup amusée. Mais ce que vous ne savez pas, et donc je vais vous lire des extraits de ça, mais ce que personne ne sait, et c'est vraiment un scoop, mais souvenez-vous, après ma mort, c'est qu'il y avait dans le ventre, dans le, comment dire, le giron mental de l'écrivaine, un deuxième enfant en même temps. Je faisais un deuxième enfant en même temps. Je faisais un deuxième livre qui devait paraître, c'est le livre jumeau de celui-ci. C'était la même longueur, 280 pages. Et ce livre-là est un vrai document qui date de 1984-1986. Et c'est un échange de lettres entre ma mère et moi. C'est elle qui a proposé, quand elle a vu que je commençais à devenir écrivaine, elle-même, je vous informe avec plaisir, est psy.
Nos enfants ont un bel avenir.
Elle-même est psy. Et donc, elle m'a dit, j'ai vu que, voilà, tu as publié... Je crois que je venais de publier « À l'amour comme à la guerre », qui était une correspondance sur la prostitution et la guerre, avec un historien américain. Et elle a dit, moi, ça me tenterait beaucoup qu'on ait une correspondance sur le thème du rapport mère-fille. Et chacune l'approcherait de là d'où elle vient, toi plus une approche littéraire, moi plus une approche théorique, psychanalytique, psychologique et tout. Elle est plus behavioriste que psychanalyste d'ailleurs. Et j'étais terrorisée. Donc j'avais 31 ans au début. Et pendant que... Oui, j'étais déjà maman. J'avais une toute petite fille de 2 ans. Et elle, sa mère était donc, elle avait 53 ans, parce qu'elle a que 22 ans de plus que moi, et sa mère avait 80 ans et était en train de diminuer. Et donc, visiblement, elle voulait me parler du rapport mère-fille aussi par rapport à sa propre mère, par rapport à ses propres difficultés avec la maternité qui avait fait qu'elle nous avait laissé ses 3 enfants. Et moi, je me suis dit, bon, c'est un terrain miné, mais... voilà, on va y aller. Et donc...
Opération de déminage.
Exactement. Opération de déminage. On essaye. Et donc, on s'est lancé. Et on a travaillé comme ça pendant 2 ans. On s'est envoyé des lettres régulièrement. Des lettres très écrites, très recherchées, avec plein de réflexions... parfois des analyses, donc moi je sortais mes trucs, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Sylvia Plath, machin, elle me parlait de ses colloques sur l'anorexie, boulimie, elle faisait des choses comme ça à l'époque. Et puis elle me racontait des histoires de sa mère, et moi je racontais ce que faisait ma fille, etc. Et c'était un document dingue. Et parce qu'il est, vrai, quoi. Il existe. Il s'appelle De Louise à Louise, parce que c'est notre deuxième prénom à toutes les deux. Or, en déménageant, je tombe sur ce dossier, je m'assois dans son fauteuil. Je ne l'ai pas lu depuis le milieu des années 80. Et évidemment, je suis un rideau de larmes à la fin. Et donc, un peu pour pouvoir... faire bad girl, pour me concentrer, pour recommencer ma vie comme je le souhaite, la mettre sur les bons rails, je traduis De Louise à Louise en parallèle avec ça. Je le fais lire à mon chéri, je le fais lire ensuite à mes éditeurs québécois et français. Ils sont sidérés, ils sont enthousiastes. Ils sont d'accord pour publier dans un même coffret Bad Girl et De Louise à Louise en tête beige, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, le gros morceau, et I have to ask mommy. Il faut demander la permission de ma maman. Et donc, je lui envoie, j'explique, je ne lui dis pas qu'elle est obligée de lire Bad Girl. Je pense qu'elle ne me lit pas depuis très longtemps et que c'est mieux comme ça. Mais je dis, voilà, j'ai saisi aussi la version anglaise parce que c'était, il n'y avait pas encore d'ordinateur quand on a écrit. Donc j'ai saisi et je lui ai envoyé la version anglaise et j'ai dit, bien sûr, tu peux couper ce que tu n'aimes pas, tu es l'auteur. Enfin, mais je pense que c'est un document important pour l'humanité. Parce que les mères et les filles sont tellement proches qu'elles ne se... s'analyse pas de cette façon, quoi. Et c'est un avantage énorme d'avoir eu cette distance entre nous. On est deux intellos, c'est incroyable comme on se ressemble. Et moi, comme lectrice, maintenant quand même un peu distanciée, je peux vous dire qu'en lisant ça, on est d'accord avec chacune tour à tour. C'est, on dit, ah ouais, non, mais pff, alors, elle lui rentre dedans, ah oui, qu'est-ce qu'elle va répondre à ça? Et puis, on répond, ah oui, non, elle a raison, elle, c'est elle qui, ah, qu'est-ce que tu vas répondre? Et c'est, oui, oui, c'est vraiment, un, oui, c'est l'espace du chef. Et donc, elle a dit non. Alors, je n'ai pas insisté parce que je ne veux pas qu'elle le mette dans son testament que non.
On lui dira rien, on lui dira rien. Ça reste entre nous. Ce qui se dit ici, reste ici, hein, comme dans nos dispositifs. Hein.
Mais j'ai bien pris les coordonnées de ces autres filles pour pouvoir leur demander un peu plus tard si elles ne seraient pas d'accord. Parce que je pense qu'elles comprendront l'intérêt de la chose. Et ce qui est très beau, c'est qu'en le lisant, bien sûr, c'est toute une génération qui avait passé. C'était déroulé. Donc ma fille a maintenant 33 ans, enfin avait 31, donc ça s'est passé il y a 2 ans. Moi j'avais l'âge de ma mère avait l'âge de ma grand-mère à l'époque, ma grand-mère était largement décédée. C'est étonnant, c'est bouleversant, c'est vraiment, voilà. Donc j'espère qu'un jour ça pourra circuler parce que. En fait, si elle a dit non, c'est parce qu'elle était choquée par sa propre violence contre son père. Et moi, c'est parce qu'elle n'a pas compris cette idée de fiction. Elle n'a pas compris qu'il n'y a pas de vérité. C'était sa vérité de l'époque. Elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle a dit à l'époque. Mais c'est pas pour, elle ne voulait pas que son père ait une mauvaise réputation auprès de la postérité. Mais c'est juste pas grave du tout, quoi. On dit des choses excessives, on est en colère à un moment donné, on ne l'est plus. C'est exactement ce que je voulais montrer aussi en publiant Bad Girl, en disant ça c'est une version. Mais je sais que si ma mère écrivait l'équivalent ou mon frère qui a été abandonné aussi, ou ma sœur, ils écriraient ça tout autrement. Ils ont d'autres souvenirs des mêmes événements. Et c'est pour ça aussi que c'est fictionnalisé. Ce n'est pas pour dire j'ai inventé, j'ai raconté comme je me rappelle les choses, mais je sais que mon cerveau, il est romanesque, comme le cerveau de tout le monde. Il fabule. Alors je vous lis quelques fabulations. Je vais commencer à la page 131 et je vais lire, mettons, une toute petite demi-heure, ça va?
Très bien. Okay.
Et ensuite, on discute. Et après, je vous quitte à 13h, pardon. Mais c'est bien d'avoir du temps. Merci d'avoir organisé la chose comme ça. Donc la mère ici s'appelle Allison, la petite fille s'appelle Dorit, le petit fœtus, là. Le père s'appelle Kenneth. Okay. La vie des parents d'Allison devait ressembler à un perpétuel tir à la corde. Elle disant le bénédicité avant chaque repas et lui marmonnant au lieu de l'habituel Amen, Baliverne. Elle concoctant sa gelée de pommes sauvages et lui ronflant bruyamment dans son fauteuil relax. Elle, assistant régulièrement à l'office, coiffée d'un chapeau noir à voilettes, qui le dimanche matin devait lui donner une vision du monde assez semblable à celle des Afghanes en burqa. Et lui, l'accompagnant, mais à reculons, agacé par la contrainte. Plausiblement, petite fille, la jeune femme qui te porte dans son ventre en ce moment a aspiré à faire plaisir à ces deux contraires. Comme toi, Dorit, elle a voulu contenter simultanément maman et papa, alors qu'ils n'étaient d'accord sur rien. Son père tenait à ce qu'elle soit bonne élève, et elle a été bonne élève. Sa mère voulait qu'elle apprenne à cuisiner, et elle a appris à cuisiner. Peu à peu, elle est devenue une jeune fille vive et vive d'esprit et omnidoué. Oui, tu le découvriras toi-même. Il est possible d'être omnidoué, à condition d'être extrêmement anxieux. Ce qu'il faut comprendre des femmes de cette génération, la première à naître après l'arrivée du suffrage féminin en Amérique du Nord, 1920, c'est qu'elles croyaient possible de tout réconcilier. Aujourd'hui, plus personne ne le croit. Hélas, tandis qu'on élevait les filles à la fois comme filles et garçons, on continuait à élever les garçons comme des garçons. Et ce qu'il faut comprendre d'Alison en particulier, c'est qu'elle aimait tout. Mais alors vraiment tout. Et de tout cœur. Elle aimait jouer du piano et planter des légumes et se maquiller et confectionner des tartes et lire des livres de psychologie et de critique littéraire et assister à des concerts de musique classique et participer à des conversations spirituelles. Et sans doute aurait-elle même raffolé d'être mère et ménagère si on ne lui avait pas intimé l'ordre de s'en contenter. Hélas, elle était en avance sur son temps. Comprends-tu, Dorit, tu vas naître à une époque vraiment nulle. Les années 50, moment où les femmes nord-américaines sont censées retourner à leur putain de fourneau et réapprendre leur rôle d'ange du foyer qu'elles avaient délaissé pendant la guerre. Elles n'en auront que très moyennement envie. Et les hommes dont elles s'éprennent n'apprécieront leur insolence, leur indépendance et leur égalitarisme qu'aussi longtemps que le couple restera jeune, libre et sans enfants. Dansant ensemble sur l'air de « Why don't we do it in the road ?» Le rêve d'égalité volera en éclats dès que les bébés commenceront à débarquer. Tu veux savoir la vérité? C'est encore assez souvent le cas. Pour résumer, Dorit, ta jeune et belle et ambitieuse maman est déjà affolée par l'espace que tu occupes dans son corps et effarée à l'idée du temps que, sortie de là, tu occuperas dans sa vie. Elle est un prototype de la femme moderne qui s'acharnera à être totale sans y parvenir. Il te faudra de longues années pour comprendre que ce qui ne va pas dans les études de genre, c'est qu'elles décrivent la maternité comme un rôle à jouer, un métier à choisir. Truc-mu, je veux être policier, truc-mi, je veux être mère. Cassons ces vieux moules. Eh ben non. Jouer à la poupée, ce n'est pas se soumettre à un stéréotype stupide. C'est imaginer à l'avance et tenter de bien imaginer une longue et lourde et réelle réalité que connaîtront une fois grande 90% des petites filles. Au cours des heures et des jours qu'elle passera avec toi, Alison fera de son mieux pour te transmettre sa culture et ses connaissances, mais chaque fois qu'il y aura un pépin, l'univers s'effondrera. Car en elle, la maternité n'est pas, comme en ses aïeules, enracinée dans des millénaires de savoir-faire et de confiance en soi. Alison n'est pas tranquille dans la certitude que c'est cela qui confère un sens à la vie d'une femme. Alors accroche-toi, Dorit, parce que cette maman magicienne super performante va exécuter quelques sacrés tours de passe-passe avant de prendre la clé des champs. Tu la vois? Abracadabra, tu ne la vois plus. Elle sera là, puis distraite, perdue, éperdue, heureuse, puis hystérique. Un mois de décembre, quand tu as 3 ou 4 ans, peut-être dans la maison de Dalton, ce quartier d'Edmonton où vous aménagerez en 1956, elle t'amène au sous-sol avec elle, chercher les décorations pour l'arbre de Noël. Son excitation fait de ce moment une vraie petite cérémonie. Tu vois ses belles mains aux ongles rouges écarter les pans des boîtes en carton et en retirer individuellement, enveloppées dans du papier journal, chacune différente, de grandes et fragiles boules de verre où brillent or et argent, où scintillent toutes les couleurs. Oui, tu sens que pour Alison, il s'agit d'un rituel important et tu es fière de l'aider à accrocher ses merveilles sur l'arbre. Ensuite, horreur. Une des boules glisse de tes petites mains et se brise sur le sol de la cuisine. Pas de retour en arrière possible. La boule n'est plus que fragment étincelant, éparpillé. Et les cris que pousse alors la mère résonneront à travers les décennies. Déception, dévastation sans remède, colère définitive. Tu es coupable, vois-tu, Dorit, tout le mal du monde et de ta faute. Non, je plaisante. Allez, ma chérie, ça n'a pas d'importance. Regarde, c'est balayé déjà. Viens là que maman te serre dans ses bras. Dans toutes les études neurologiques qui portent sur le sujet, on lit que l'interaction entre la mère et son bébé est cruciale pour le développement du cerveau de l'enfant. Et si cette interaction est aussi régulière que le code Morse, eh bien, il y a des chances pour que le cerveau de l'enfant soit spasmodique. Un autre jour à la cuisine, Alison grimpe sur un tabouret chercher quelque chose sur la dernière étagère du placard. Comme tu sais que les bonbons à la menthe se trouvent là-haut, tu lui demandes si tu peux en avoir un. Et elle prononce une phrase, mais comme elle te tourne le dos, tu ne l'entends pas. Alors tu dis « Quoi ?» Et elle répète sa phrase et tu ne la saisis toujours pas. Alors tu dis « Quoi ?» Et à ce moment précis, Steven, ton frère, déboule dans la cuisine et tu te vantes de ce qu'on va te donner un bonbon à la menthe et la mère explose. « Je t'ai dit de ne pas le dire à ton frère !» Aïe, c'est ça qu'elle avait dit. Qu'il ne fallait pas le dire à Steven, que maman allait te donner un bonbon à la menthe. Et pourquoi ? Les bonbons coûtaient si cher. Sur le moment, tu ne raisonnes pas. Sur le moment, tu meurs. La rage d'Alison te stupéfie, t'arrase l'être, te réduit en cendres. Nous nous trouvons d'abord, disent les psychologues, dans les yeux de la mère. Et si la mère regarde ailleurs, eh bien l'enfant fera de son mieux pour être ailleurs.
C'est très important.
Avec un A majuscule.
Pour être ailleurs.
Alors, ça se décline, hein. C'est très, très, ça peut se décliner, hein, de regarder ailleurs, si la mère est ailleurs, ça c'est intéressant.
Oui.
Ça se décline. Mm.
La frise chronologique correspondant aux deux premières années de ta vie est un vrai foutoir, Dorit. Autant le savoir à l'avance, car tu auras de sacrées bourrasques à gérer dès que tu débarqueras sur la terre ferme. Quand tu auras 8 mois, Kenneth, le père, donc, s'en ira suivre un cours de météorologie dans l'est du pays, à plusieurs milliers de kilomètres de chez vous. Quelques mois plus tard, Alison vous trimballera, Steven et toi, jusqu'à Toronto. D'abord parce qu'elle trouve inadmissible qu'on lui fourgue les enfants comme ça. Ensuite, parce qu'une copine à elle, qui habite Toronto, vient de subir un avortement et a besoin de son soutien. Tu vois, ça aurait pu être toi, le bye-bye baby. Pour finir, les deux femmes s'amuseront tellement dans la grande ville, auront tant de plaisir à se découvrir toujours jeune et sexy, qu'Alison décidera de mettre les deux mômes au vert. Elle vous laissera quelques mois avec un couple dans la ville de Trenton, à seulement 169 km de Toronto. Sur la frise, l'été 1954 sera décrit ainsi. Donc c'est une frise que mon père et mon frère ont fait ensemble quand mon père avait 60 ans et mon frère 39. Et ils ont juste essayé de reconstituer tous les déménagements et tout. Complètement hallucinant. Donc, l'été 54, Toronto et Trenton. Toronto, bonne période. Trenton, mauvaise période. Et la case suivante, correspondant à octobre 54, mars 55, famille éparpillée, entre parenthèses, mauvaise période. Une demi-année de famille éparpillée, c'est long quand on a qu'un an. N'est-ce pas, Dorit? Ça te donnera du fil à retordre pour le restant de tes jours. Plein de questions sans réponse, ce qui est excellent pour l'écriture. Ou pour la peinture-sculpture, comme Louise Bourgeois. Je cite, « Un an abandonné. Pourquoi me délaissent-ils? Où sont-ils? 3 mois, affamés et oubliés, peur de la mort. » Cri et cauchemar. Où sont-ils? inconnu qui vous frappe. Peur de la mort, inconnu qui vous nourrisse et vous met au lit. Pourquoi me délaisse-t-il ? Ce genre de scène ressurgira d'un bout à l'autre de ton œuvre romanesque. De nombreux enfants dans tes livres seront régulièrement giflés, engueulés, fessés, frappés à la tête. Ils vivront dans la peur, ne sachant jamais si on va leur donner un baiser ou un coup de pied. Des photos de cette mauvaise période te montrent les yeux coquettement baissés, le regard détourné de l'appareil, te cramponnant à tout ce qui se trouve à proximité, peluche, poupée, frère aîné. J'essaie de n'occuper aucune place, dit ta posture. Mais hélas, je ne puis m'empêcher de respirer. Désolée. Toujours, toute ta vie, jusqu'à l'orée de la vieillesse, tu t'identifieras aux choses tordues, ébréchées, de guingois, un peu cassées, comme toi. Si tu achètes aux puces tes meubles et tes habits, c'est moins pour faire des économies que parce que tu as pitié des objets rejetés, venus y échouer. Les arbres qui réussissent à pousser autour de grillages métalliques te fendent le cœur. Privé comme Romain Gary de tout sentiment de sécurité à l'endroit de l'amour maternel, comme lui, tu ne sauras t'aimer qu'à travers les autres, de préférence souffrant. Je cite Gary parce que j'adore cette citation. La faute en est, je crois, à mon égocentrisme. Ça, c'est de Promesse de l'aube. Mon égocentrisme est en effet tel que je me reconnais instantanément dans tous ceux qui souffrent et j'ai mal dans toutes leurs plaies. Cela ne s'arrête pas aux hommes, mais s'étend aux bêtes et même aux plantes. Un nombre incroyable de gens peuvent assister à une corrida, regarder le taureau blessé et sanglant sans frémir. Pas moi, je suis le taureau. J'ai toujours un peu mal lorsqu'on coupe les arbres, lorsqu'on chasse l'élan, le lapin ou l'éléphant. Par contre, il m'est assez indifférent de penser qu'on tue les poulets. Je n'arrive pas à m'imaginer en poulet. Plus que tout autre facteur, c'est peut-être cette empathie désespérée qui fera de toi une romancière. Alors, je vais sauter à la fameuse page 182. Il y a quelques pages autour de ça. Donc, le livre est aussi dédié, d'ailleurs, à une amie psy, une amie merveilleuse, parce que j'ai quand même toujours trouvé des femmes pour être ma mère, heureusement. J'ai trouvé des substituts de mère absolument magnifiques qui ont joué un rôle irremplaçable dans ma vie. Inge, elle serait fâchée de m'entendre parce qu'elle préfère être ma grande sœur, mais elle est quand même plus vieille que ma mère. Donc. Elle a presque 90 ans, mais bon, ça peut exister aussi. On n'a pas besoin d'étiquette. On s'adore. Et vous allez la rencontrer maintenant. Le trauma provoque une sidération. Pardon, je vais encore faire une autre parenthèse. Quand ce livre était sous presse, donc je savais déjà, je crois, que de Louise à Louise n'allait pas se faire. J'ai fait un voyage en Alberta avec mon chéri. C'est d'ailleurs le roman parlera de cette partie du monde. Et on est resté chez la petite sœur de ma mère à Edmonton, qui était ma première prof de piano. Ici, elle s'appelle Béatrice. Et elle me demande, je l'adore, on est toujours resté en contact, et elle est très généreuse, très sympa, mais un peu cassante parfois. Et elle me dit, tu travailles sur quoi maintenant? Et j'ai dit, je vais publier à l'automne un livre qui s'appelle Bad Girl. Et elle fait, you're still milking that one. Hein? Donc en fait, c'est vraiment le truc, tu le sers comme, tu le presses comme un citron, quoi. Ouais. C'est un peu plus méchamment dit, on dirait c'est en fonds de commerce, quoi. Hein? Ah oui, d'accord. Encore, ouais. Tu reviens encore là-dessus, tu vois. T'en as pas marre, des fois. Non? Et donc, en fait, ça, c'est la réponse. C'est pas une question d'en avoir marre. C'est juste que ça bouge pas. Le trauma provoque une sidération. Ce n'est pas une mauvaise passe, c'est une impasse, une chose qui ne passe pas. En lui, le temps se fige. Répétons, le trauma reste à jamais dans le présent. Il ne recule pas dans le passé, ne se normalise pas pour être peu à peu intégré au récit de la vie, comme je disais de Annie Leclerc. Répétons, le trauma a une qualité immédiate, envahissante, hallucinatoire. Sa douleur demeure vive à vif. Oui, il faut le répéter car le trauma est précisément une répétition, à l'identique ou presque. Il arrête le temps. Une semaine après les funérailles de mon père, au séminaire de ton ami, du père, pardon, c'est bien sûr mon père, mais comme je parle à Dorit, une semaine après les funérailles du père, au séminaire de ton ami Inge Schneier-Hoffmann à l'école de médecine de Harvard, tu assisteras à une conférence d'un psychologue néerlandais qui tira droit au cœur. À ce stade, c'est vrai que je dis souvent droit au cœur. À ce stade de ta vie, ce n'est plus la peine de te dire des choses qui te vont droit au cerveau. Les intellectuels l'ont fait pendant longtemps, mais cela ne t'aide pas. Dorénavant, tu as besoin de choses qui te vont droit au cœur. Basel van der Kolk dit que les émotions gravées dans le disque dur du système limbique des animaux comme des humains sont pour l'essentiel immuables. Il dit que le but de l'émotion est la motion, le mouvement, de nous rapprocher ou nous éloigner les uns des autres. Il dit que le cerveau est l'organe qui fait bouger les muscles. Accessoirement, il peut certes avoir d'autres fonctions, mais pour l'essentiel, le but de la vie est de bouger. Il dit que le trauma vous conduit à perdre toute motivation, donc tout affect, et vous paralyse. Il dit que le nerf vagal relie le cerveau, le cœur et les tripes. Il traite d'aberrante la notion freudienne selon laquelle parler de son trauma aiderait à le surmonter, car au moment du trauma, le lobe frontal où se passe le langage ferme boutique. Il dit que sont plus efficaces pour améliorer l'état d'une victime de trauma la danse, le théâtre, le rolfing, et le yoga, des trucs du corps, de corps. Alors là, j'ai vraiment eu une sorte de waouh, parce que mon corps a su toutes ces années ce qui pouvait lui faire du bien. Et j'ai pas fait le rolfing, mais j'ai fait tout le reste. Danse, théâtre, yoga, danse, théâtre, yoga. J'ai jamais arrêté. Je continue, mais c'est pas pour être maigre ou quoi. C'est juste, je savais que j'avais besoin de ça. À la différence des autres animaux, les humains ont tendance, après avoir enclenché un mécanisme de défense dans une situation d'urgence, à ne pas le désactiver par la suite. Menacé de mort, un animal se fige de terreur, mais une fois le danger passé, se met à trembler violemment pour se débarrasser de l'excès d'énergie qui s'est emparé de ses muscles et les a paralysés. L'humain, lui, reste très souvent bloqué. Voilà pourquoi sera inutile toute forme de thérapie qui lui demande de parler de son traumatisme, d'y réfléchir, de s'étendre là-dessus. Bénéfique au contraire, toute forme de thérapie qui l'aide à terminer son mouvement de défense pour en émerger. Qu'est-ce qui nous permet de continuer, demande un personnage de l'Oratorio de Noël, roman de ton ami aimé Göran Tunström, c'est le son qui va et qui vient, comme l'eau parmi les pierres. L'eau est son, la pierre silence. L'eau te sauve, la pierre te tue. Rien ne te fera plus peur que l'immobilité. Le mouvement du monde qui freinerait, ralentirait, s'arrêterait. Les gens qui resteraient de pierre.
Pulsion de vie, pulsion.
Ça, c'est le mien.
Je suis tellement émue. Ce que je fais. Ah, comment dire merci ?
En disant merci.
En disant merci. Merci. Merci
beaucoup. Mais merci.
Je crois que tout est là. Tout est là. Il a été question beaucoup de poupées. Je me suis demandé si c'est parce que nous n'étions que des femmes ici, à cette table aujourd'hui, exceptionnellement, mais je ne pense pas.
Je porte le prénom de la poupée de ma sœur.
Je pensais juste dire, vous dire, puisque vous avez évoqué la question de l'enfance, que justement, moi, ce livre, ça m'a fait penser à Jean-Bertrand Pontalis, qui au cours d'une interview, qui était donc écrivain et psychanalyste, qui disait, justement sous ces formes de fragments dont on a évoqué, puisque quand même Dorit, vous l'installez dans le langage, dans les sensations, dans sa lignée, dans son sexe. Et Jean-Bertrand Pontalis disait « Mon rêve, c'est aussi la vocation de l'analyse, c'est de faire entendre l'infance, celui qui ne parle pas, celui à qui il manque quelque chose. On identifie souvent l'infance au non-parlant ou privé de parole. » Mais il disait justement que cet oubli de l'enfance, ça contient des trésors mémoriels justement assez extraordinaires qu'il serait intéressant de faire, de traduire. Il disait, on parle beaucoup de l'avènement du langage, mais le bébé qui peut parler plusieurs langues a aussi une richesse, mais qu'il va perdre pour gagner dans le langage et le symbolique. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle de l'infance, mais je pense qu'on a parlé des traces aussi tout à l'heure. Et comment on peut lancer la discussion, comment on peut permettre des associations. Tout simplement, je pense que ce serait beaucoup mieux, on n'a pas à faire de théorie, on a juste à pouvoir garder en nous, laisser cheminer comme l'eau qui coule à travers les pierres. Moi j'ai beaucoup aimé cette sensation, parce qu'on le voit bien aussi avec les familles, quand il y a trop de pierres ou quand l'eau ne circule plus. Et je vous disais à la fin, c'est comment l'eau, la pulsion de vie, pulsion de mort, ça peut circuler ou pas. Enfin, c'est une métaphore de l'économie psychique, individuelle et familiale. Et je trouve que ça, ça m'a aidé, parce qu'on parle justement de métaphore dans les thérapies familiales. Et ça m'est venu après, comme ça, longtemps après l'avoir lu, tout à coup, je me suis dit, ben oui. Alors, dans la famille, il y a des barrages, il y a dans cette rivière, il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup de barrages, et ça circule pas trop. Mais bon, voilà, je suis allée. Et ça fait du bien aussi quand on est un peu épuisé, quand on ne sait plus, on ne peut plus penser, parce qu'on peut être très saisi, nous aussi, très pétrifié. D'aller chercher des matériaux ailleurs, dans la littérature, dans le cinéma. Et ça vous aère l'esprit. Merci beaucoup.
Alors, puisque vous êtes tout près de nous, c'est vraiment de l'association. Je n'y avais pas pensé comme ça. Mais en vous écoutant, je me rappelais avoir écrit un article qui s'appelait « Le son des liens ». Et je trouvais que dans cet ouvrage-là, comme ça, en vous écoutant, il y a quelque chose qui est rendu du son des liens, qui n'est pas forcément les mots du lien, pour reprendre ce que nous proposait Marie-Vonne. Et je me demandais, de quoi vouliez-vous avertir Dorit? De quoi voulez-vous la prévenir? C'était comme si, pour moi, il y a une précaution. Il y a une précaution dans le livre qui s'adresse au fœtus, c'est-à-dire le fœtus qui est là, pas là, hein, quelque chose du dedans et du dehors. Et je me demandais s'il n'y avait pas là un discours maternel, auto-maternant, peut-être que tout le monde, enfin que beaucoup de mamans et de papas le font, mais je trouvais que dans Bad Girl, il y avait quelque chose de l'auto-maternage.
Ça, c'est intéressant parce que il se trouve que mon frère aîné, qui est donc, bien sûr, si trois enfants de 8, 6 et 3 ans vivent l'abandon de la mère, garçon, fille et fille, on ne va pas le vivre de la même façon du tout. L'âge n'est pas le même, le sexe, tout. Ça crée trois histoires totalement différentes. Ça aurait créé trois romanciers totalement différents. Et mon frère aîné n'a pas eu d'enfant. Et c'est un oncle merveilleux, c'est pas quelqu'un qui n'aime pas les enfants, etc. Mais je me rappelle, après le départ de mes enfants, quand ils étaient grands, j'ai dit à mon frère, c'est terrible, ça me prive de la possibilité de me materner à travers eux. Et ils ne comprenaient pas. Et je me suis dit, ah mon Dieu, il n'a pas pu vivre ça, c'est dommage, quoi. Je le plains, parce que c'est sûr que ça m'a fait un bien énorme de pouvoir materner. J'ai adoré ça, bien sûr. Je voulais vous signaler un autre livre qui vient juste de paraître à propos de Québec. Au Québec, j'en parle au début de Professeur de désespoir, il y a eu un groupe d'artistes juste après la guerre qui s'appelait Le Refus Global. C'est un très bon nom. Des peintres, des écrivains, des sculpteurs, des danseurs qui voulaient jeter un pavé dans la mare, être contre toutes les contraintes de cette culture extrêmement catholique, extrêmement étouffante. Et donc c'était des hommes et des femmes, c'était une sorte de années 60 avant la lettre et tout. Et une des choses qu'ils ont faites, pas tous mais la plupart, c'est de quitter leurs enfants quand ils en avaient. Et une génération plus tard, juste au moment où j'écrivais Professeur de désespoir, mon frère m'a dit, mais tu sais, Manon Barbeau, la fille de Suzanne Meloche et Marcel Barbeau, qui viennent de mourir hier, elle a fait un film sur les enfants du refus global. J'ai dit, ah, il faut que je vois ça. Et c'est fantastique. Elle est allée chercher les gamins qui avaient été abandonnés par libertarisme, comme ça, ce grand cri de liberté de leurs parents, et souvent en institution, quoi. Voilà. Elle-même s'en est sortie par la création. Alors, il vient de paraître un livre qui m'a encore fait pleurer, mais vous allez penser que je passe mon temps à pleurer. C'est pas vrai.
Non.
C'est pas vrai. Mais là, l'autre jour, j'étais dissoute. C'est un livre qui s'appelle... Le titre, c'est « La femme qui fuit ». Tout pour me plaire. L'auteur, Anaïs Barbeau, B-A-R-B-E-A-U, Lavalette. Et elle a écrit... C'est la fille, donc, de Manon Barbeau, la cinéaste, qui est la fille de l'artiste qui a laissé ses enfants. Manon avait 3 ans quand sa mère est partie. Et il y avait un petit François. C'est lui qui est schizophrène. Pas du tout, il ne peut pas fonctionner. Il avait 6 mois. Donc, la petite fille de la peintre a engagé une détective privée pour faire des recherches sur la vie de sa grand-mère, pour retrouver sa trace. Elle avait vécu à New York, elle avait vécu à Londres. Et elle a recueilli des témoignages de tous ceux qui l'avaient croisée et tout. Et la petite fille écrit un livre par fragments. D'ailleurs, elle cite Bad Girl au tout début. Elle m'a fait une signature du livre très touchante. Je trouve qu'elle écrit très, très bien. Au début, quand elle résume les faits de comment elle a vu sa grand-mère 3 fois dans sa vie, qu'elle lui en a beaucoup voulu, qu'elle a détesté d'avoir fait souffrir sa mère, etc., moi, j'étais de glace. Je me suis dit, bon, encore des salades et tout. Mais par la force de l'écriture, quand elle reconstitue, elle se projette, elle tutoie aussi cette femme qui était sa grand-mère, cette jeune femme en révolte. Et à la fin, quand elle re-raconte ces mêmes scènes des 3 ou 4 petites rencontres avec sa grand-mère, j'étais, mais c'est, ça change tout, quoi. Parce que tu as vécu la personne de l'intérieur, tu la connais, tu l'aimes, tu la plains. C'est fantastique, le pouvoir des mots. C'est juste incroyable. Oui.
Fantastique dans tous les sens, parce que les mots tuent aussi, vous dites.
Oui.
Ouais. Aïdé, tu veux dire un petit mot?
Oui.
On va essayer de.
Alors, oui. Alors, je vais commencer par une impression que j'ai eue dans la lecture de Bad Girl, parce que je me suis dit, mais je lis, mais c'est haché, c'est fragmenté, les chapitres sont courts. Enfin, il y avait toute une forme comme ça qui m'a
dérangé un peu au début.
Non, pas dérangé, impacté, non, mais pas, non, pas dérangé.
Interpellé, on dirait.
Interpellé, merci. Et je me suis dit que c'était des fragments et des bribes, et sans lien apparent les uns avec les autres, mais qui s'apparentaient à des mouvements de déliaison. Mais je me suis dit, bon, est-ce que c'est le résultat des processus de morcellement traumatique? Enfin, bon, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Hein? Bon. Mais j'avais l'impression que les effets traumatiques se faisaient sentir dans cette forme d'écriture. Hein? Ça, d'une part. Donc, je trouvais que le travail de la mise en récit que vous avez fait est réalisé avec tous ces fragments. Et je cite Ricoeur parce que c'est quand même un incontournable, hein, que pour faire un travail narratif, il faut le faire avec toutes les discordances et toutes les concordances, hein, de toutes les ruptures et les continuités, configurant par son sens ce qu'il appelle l'identité narrative. Hein. Mais je trouve que le concept de Ricoeur de l'identité narrative, c'est un concept très abouti, très formé et un peu rigide, on peut dire. Tandis que dans Bad Girl, on a l'impression de quelque chose de en construction, avec toutes les discontinuités, tous les ruptures, mais c'est une discontinuité avec en même temps j'ai eu l'impression une quête obstinée de sens. C'est comme ça que je l'ai vécu.
Ça me va.
Et sans une fin évidente. Bon, évidemment, parce qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Hein. Donc, le récit est une reconstruction subjective et une production de soi. C'est ça qui est important. Comme s'adressant à un autre, dont il aurait une réponse. Nous avons l'impression que certaines personnes sont intéressées par nos histoires et nous apprenons quelque chose d'elles, dans le fait même de raconter. Et d'autres sont impatientes pour raconter leurs propres histoires et ainsi n'écoutent pas les nôtres. Donc, une des premières tâches en tant que thérapeute est d'aider les familles à raconter leurs histoires et à se les approprier. La liberté d'esprit pour penser, sentir et savoir dépend de la capacité à raconter des histoires, et la position du thérapeute joue un rôle primordial dans le développement de ces capacités. La capacité des familles à raconter et à s'approprier leurs histoires est au fondement d'une libération vivifiante. D'autres histoires imposées de manière névrotique par des sources internes ou externes. Les histoires éprouvées ou remémorées, mais jamais intégrées. Les histoires éprouvées ou remémorées, mais jamais formulées. Les histoires formulées dans le langage de l'action. Alors, cette image de fragmentation nous rappelle les séances de thérapie familiale, qui sont parsemées de bribes, d'éléments sensoriels éparses, d'objets bruts, qui nous apparaissent déconnectés et créent un climat de pesanteur et d'immobilité. Et ça, je me rappelle des séances où on a l'impression qu'il ne se passe rien, hein, et qu'on est dans des choses absolument factuelles où on ne trouve pas le sens. Et ça, il se montre comme un effet d'une immobilité psychique. Hein. Les histoires, la parole et toutes ces scènes associatives, elles vont dans le sens de assouplir ses rigidités. Hein?
J'aimerais réagir à cette histoire de fragments pour le,
d'accord,
pour le livre aussi.
Oui, j'ai pas terminé, mais non, bon,
c'est bon.
Bah,
juste très rapidement, parce que je sais qu'il y a des gens dans la salle qui veulent aussi parler, mais sur la forme de Bad Girl, en fait, ce n'était pas mon idée initiale, et ça aussi, c'est intéressant, je pense, pour vous. Je sais pas pour n'importe quel public de savoir ça, mais comme vous savez, je suis bilingue. J'écris mes romans dans la langue que parlent mes personnages, donc normalement, comme je parle de mon enfance qui s'est déroulée en anglais, ça aurait dû être un livre que j'écris en anglais. Mais je savais que j'allais avoir besoin de mes défenses, de ma protection francophone, qui est beaucoup plus, voilà, plus intellectuelle, plus cerveau gauche, plus...
des affiliations intellectuelles, c'est des affiliations affectives et intellectuelles, pardon.
Secondarisée, plus secondarisée. Et donc, en fait, à l'origine, c'était un livre organisé en les 9 mois de la grossesse. Et dans chaque mois, il y avait la partie anglophone qui racontait ce qui se passait dans la vie de ce couple avec déjà un enfant, etc., et qui est déjà pas mal en bisbille. Et dans la deuxième partie, en français, deuxième partie du mois, l'intellectualisation à partir de tout ça. Pourquoi est-ce que tu t'es tellement intéressée à l'avortement alors que tu n'as jamais vécu ça, ni de près ni de loin? Tiens, c'est intéressant, tiens, c'est... peut-être... Alors, et donc, je raconte un peu les littératures sur l'avortement en français. Et puis, je reviens au deuxième mois, c'est trop tard, etc. En anglais. Et alors, ce qui s'est passé, j'ai écrit ça comme ça, le premier mois, début de chapitre, processus primaire en anglais. Fin de chapitre, voilà, processus secondaire en français. Ensuite, je reviens la semaine suivante. Ça prend plusieurs jours. Et puis, je reviens, je commence le deuxième mois, première partie. Et je reviens pour écrire la deuxième partie. Et je regarde la première partie du deuxième mois. Et je dis, merde, c'est en français! Et je n'ai pas fait exprès d'écrire en français. Mais je ne pouvais pas écrire le livre en anglais. C'était trop douloureux, quoi. C'est trop douloureux. Après, je l'ai traduit. Ça ne sera peut-être jamais publié, mais j'ai fait une version. Mais je ne pouvais pas. Donc, ensuite, j'ai quand même gardé cette structure très anale, d'un bout à l'autre. J'ai montré mon éditeur québécois, qui est un très bon ami. Il m'a dit, ça ne fonctionne pas encore. Sincèrement, ça ne fonctionne pas encore pour moi. Et donc, j'ai eu dans une insomnie, en fait, je travaille beaucoup, beaucoup dans ma tête la nuit. J'ai eu l'idée de juste l'exploser. Et c'est pas n'importe quoi, c'est pas désordonné, mais de permettre la fragmentation. Comme j'ai gardé l'image d'être dans le liquide amniotique et qu'il y a des bribes qui flottent et que ça flotte et je passe et je vois ça et je flotte. Et, voilà. Et en espérant que ça fasse une cohérence chez le lecteur.
C'est ça dans votre
narrative. Oui.
J'aurais voulu dire une chose de plus. Une chose. Parce que à partir de ce livre et ensuite de ce que Henri Pierre tu as dit à un certain moment, je me suis dit que finalement on est dans des fictions successives et progressives, je ne sais pas, mais successives en tout cas, de réélaboration. Et que à ce moment-là, on a quand même la conscience que c'est de la fiction quand même. Mm-hmm. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir le narcissisme bien tempéré pour se dire que tout est fiction, finalement. Parce que sinon, il y a une espèce de creux identitaire, enfin, une espèce de no man's land identitaire qui apparaît à ce moment-là, puisque rien n'est vrai.
Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Voilà. C'est, je suis d'accord.
Non, on va laisser la salle, oui. Des micros, Didier,
Donc, vous m'avez fait réfléchir sur la question de l'anonymat et de l'ailleurs.
Merci. Alors c'est un commentaire
de l'anonymat, c'est d'être un ailleurs.
Voilà. Oui, court, mais c'est quand même un commentaire aussi plus qu'une question. Je voulais rappeler l'ouvrage d'Hélène Epstein. Hélène Epstein, qui a écrit à la cause des livres en 2009, un livre qui a été préfacé par Philippe Grimper. Ce livre s'appelle « Écrire la vie ». Celui-ci est psychanalyste, donc il est romancier, comme vous le savez, auteur d'un secret. Et il évoque la notion de souvenir de cette façon. Certains livres ou certains films commencent par cet avertissement. Cette fiction s'inspire d'événements réels. N'est-ce pas là une définition parfaite du souvenir ? Philippe Grimper ajoute, dans la préface, toujours, ce dernier n'est-il pas, en effet, une fiction élaborée par nous-mêmes à partir des événements que nous avons traversés, fiction qui a sur nous des effets de vérité sur laquelle nous nous construisons et qui oriente notre destinée. Il dit plus loin, pendant des années, tout est resté enfermé dans une chambre forte, enfoui si profondément en moi que je n'étais même pas sûr de ce que c'était. Les fantômes avaient une forme et un nom, ce qui reposait à l'intérieur de moi n'en avait pas. Quoi que ce fût, sa puissance était telle que les mots s'effritaient avant toute description. On le sait bien, vous l'avez dit, le domaine des sensations, des émotions, colore bien sûr nos représentations. On pourrait aussi commencer la discussion par cette phrase du roman « L'élégie pour un Américain » de Siri Hutzvedt, quand le psychiatre Eric Davidson dit aussi « Les souvenirs de traumatismes, guerre, violents, viols, accidents, etc. ne sont pas comme les autres souvenirs. Le traumatisme ne se manifeste pas en paroles, mais en un rugissement de terreur, parfois accompagné d'images. Alors qu'en est-il, vous l'avez redit, quand vous évoquez la famille, le roman familial, la transmission inter et aussi surtout transgénérationnelle. Dans le livre de Siri Hutzvedt, il est dit aussi par le psychiatre, il pensait avec mélancolie que la perception est en soi une forme d'hallucination. Poursuivons par ce que dit l'auteur aussi, je songeais à Monsieur T, à son père, à son grand-père, à mon père et à mon grand-père, et aux générations antérieures qui nous occupent au fond de nous, notre terrain mental est oscillant sur ces territoires anciens où passent des ombres changeantes, parlant à voix si basse qu'on n'entend pas ce qu'elles disent. Et pourtant, il y a une mélodie qui est importante, je rajoute cela. N'y a-t-il pas un lien entre vous, Nancy Houston et Siri Hutzvedt, qui dit à travers un des personnages de l'élégie pour un Américain, c'est le passé qui nous fait. Il m'est apparu dans Bad Girl, mais aussi dans l'élégie pour un Américain, à travers tous les sons que perçoit le psychiatre, ces sons de cette femme et de son enfant, qu'il héberge, qu'est-ce qu'il en est effectivement des sons paradoxaux, notamment, vous l'avez redit, ces boules de Noël cassées par Dorit, ces cris de la mère, cris où on associe sur Christ, on associe sur Grapes, et je me demandais cette grappe de boules cassées au moment de la fête de Noël, qu'est-ce que c'est que ces souvenirs de perception et de sons paradoxaux ? Qu'en est-il effectivement à travers ces souvenirs des sons ? Et vous, du reste, c'est dans la préface, même si vous l'avez redit.
Doucement, il va falloir les leurs.
Tout à fait. Vous évoquez cette femme, cette phrase de Göran Trunsen sur l'eau à travers les pierres.
Voilà, tout à fait. Voilà.
Merci beaucoup.
Je vais arrêter là.
Oui, non, c'est important.
On finit.
Oui,
c'est l'heure. Merci, oui, des annonces. Attends.